Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici une salade niçoise absolument exceptionnelle. L'enquête sur la mort en 1996 du patron d'un laboratoire d'analyse médicale de Nice qui s'appelait Pascal Vitaux. Il a fallu 15 ans pour connaître la vérité dans ce dossier. 15 années d'hésitation. Histoire écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Cette drôle d'histoire débute en février 1996 dans un drôle de décor. Un laboratoire d'analyse médicale de Nice. Labo dans lequel le patron, un certain Pascal Vitaux, possède, comment dire, un appartement privé, une garçonnière, si vous voulez. Au bout du couloir, entre les microscopes et les tubes à essai. C'est pas banal comme décor. Et la suite ne l'est pas non plus. Un matin de février 1996, donc vers 10h du matin, une femme qui se trouve être l'ex-femme de Pascal Vitaux et qui travaille au labo, Evelyne, pénètre dans la garçonnière. Et elle le trouve mort, tout habillé, étendu sur son lit, avec près de lui un bout de papier sur lequel est écrit ceci. Valium, Théralène, Barbie Rapide. Trois médicaments dont le mélange est très efficace pour se donner la mort. C'est un suicide. Les policiers arrivent et, comme c'est d'usage pour un suicide, le procureur ordonne non pas une autopsie avec des montages complets du corps, mais un examen externe par un médecin légiste. Et l'ex-femme de Pascal Vitaux, qui a découvert le corps, est convoquée au commissariat.
Il était très dépressif ces derniers temps. Il n'allait pas bien du tout. Et il y a quoi, trois jours? Il m'a dit qu'il voulait mettre fin à ses jours. C'était pas la première fois. Il avait déjà parlé plusieurs fois d'en finir. Je me suis dit, il ira pas au bout. Et puis, cette fois, il l'a fait.
Et maintenant, venez avec moi dans la salle d'autopsie. Le docteur Seba, médecin légiste, est à la manœuvre. Bien, nous procédons au déshabillage du corps, virgule. Et nous constatons les points suivants. Deux points. Pas de traces de coups, pas d'hématome, pas de lésions traumatiques. La mort est survenue dans la nuit qui précède la découverte du corps aux alentours de 23 heures. Selon nos constatations, virgule, la mort semble résulter d'une autolyse par injection massive de médicaments de la classe des tranquillisants. Point. Autolyse en langage médical, ça veut dire suicide. C'est un suicide. Avec une bizarrerie tout de même, on n'a retrouvé aucune boîte de médicaments près du corps. Et pas non plus dans le reste de la garçonnière. Bizarre. D'où cette demande des policiers qui assistent à l'examen par le légiste. Dites au docteur, vous pourriez faire des prélèvements en vue d'une analyse toxicologique? Il s'agit juste de vérifier que Pascal Vitaux est bien mort d'un cocktail de Valium, de Théralène et de barbiturique. Et après, on pourra boucler le dossier. Et d'ailleurs, le corps est immédiatement rendu à la famille, sans même attendre les résultats. C'est un suicide, ça saute aux yeux. D'autant qu'on vient de l'apprendre, Pascal Vitaux était bipolaire, une maladie psychique qui conduit plus de la moitié des malades au suicide. Alors certes, il n'y a pas de plaquettes de médicaments dans la garçonnière et Vitaux n'a pas laissé de lettres pour ses enfants, mais c'est un suicide, je vous dis. Et un suicide, c'est très intime, ça ne se raconte pas. Je suis désolé, hein. Bye bye. Les obsèques de Pascal Vitaux ont lieu trois jours après la découverte du corps, à la cathédrale Saint-Réparate dans le Vieux-Nice. Toute la famille de Pascal Vitaux est là. Son ex-femme, ses enfants et aussi ses amis. et bien sûr ses collègues du laboratoire, dont l'associé de Pascal Vito, le docteur Dominique Combes. Et après les funérailles, tout le monde se retrouve, comme c'est l'usage, dans un café près de la cathédrale. Et là, le docteur Combes va voir les enfants. « Vous devez savoir que j'ai vu votre père, quelques heures avant sa mort. Il était très déprimé, très angoissé, quoi. Au point d'ailleurs que j'ai dû lui administrer une injection, un calmant, de l'équanine. Vous savez, il était vraiment pas bien. »
Ah, c'est nouveau, ça. Avant d'avaler le cocktail Valium Théralène barbiturique, Pascal Vito aurait donc reçu une injection d'équanil, un anxiolytique, de la part de son associé. Et le soir même au dîner qui rassemble la famille et les amis proches, les enfants en parlent naturellement aux copains médecins qui sont là. Vous savez quoi? Comme lui a fait une injection d'équanil. J'ai appris ça tout à l'heure.
Une injection d'équanil? Mais autant que je me souvienne de mes cours de médecine, l'équanil, ça se prend en comprimé. Ou alors ça s'administre en intramusculaire, mais ça ne s'injecte pas en intraveineuse, non? Enfin, dans mon souvenir, c'est même écrit sur les ampoules, voie intramusculaire. C'est bizarre, ça, non?
Quelques jours plus tard, tombent les résultats des analyses de sang ordonnées par le procureur. Et là, surprise.
Bon, alors on a bien retrouvé des traces de benzodiazépines, ce qui pourrait correspondre à une prise de Valium. En revanche, il n'y a aucune trace de théralène, hein, ni de barbiturique. Strictement aucune. Et donc on a un problème parce que, je vous le dis tout de suite, on ne meurt pas d'une prise de Valium. Hein, surtout dans les doses qu'on a retrouvées.
C'est une révélation considérable. Les enfants se disent que leur père ne s'est donc pas suicidé. Alors ils décident de porter plainte. Une plainte qui ne vise pas directement le docteur Combes, mais eux, ils l'ont clairement dans le viseur. Et d'ailleurs, quand ils portent plainte, ils évoquent cette injection d'équanil en intraveineuse. Et ils signalent au passage que depuis la mort de leur père, le docteur Combes a pris pleinement la tête du laboratoire. Sur cette base, le procureur ouvre donc une information judiciaire, un juge d'instruction est nommé, et à partir de là, plus rien. Une année s'écoule sans que le juge ne procède à aucune analyse complémentaire à la recherche de l'équanil. Il faut attendre une année entière avant que le juge enfin demande à l'expert toxicologue d'effectuer de nouvelles analyses sur les échantillons de sang qui ont heureusement été conservés par l'Institut médico-légal. Et la question posée à l'expert est bien sûr la suivante. Y a-t-il dans le sang de Pascal Vito des traces de méprobamate, qui est le principe actif de l'équanil?
Bon, j'ai fait les analyses que le procureur m'a demandées. Il y a bien du méprobamate dans son sang, hein, et des quantités très élevées.
Très élevées, vous dites? C'est-à-dire?
Ben, c'est-à-dire 10 à 15 fois supérieur à la prise d'un comprimé d'équanil, quoi. Ça me paraît énorme. Au point d'ailleurs que je me demande si j'ai pas fait une erreur. Si vous le permettez, je vais recommencer toutes mes analyses. Hein. Je veux en être certain, je vous tiens au courant.
Et il recommence. Et il n'a pas fait d'erreur. La dose d'équanil administrée à Pascal Vito est une dose de cheval, administrée par intraveineuse qui plus est, et qui est donc allée directement au cœur. Le docteur Combes ne pouvait pas ignorer qu'avec une dose pareille, il allait plonger son collègue dans le coma, qu'il allait le tuer. Il ne pouvait pas l'ignorer. Et pourtant, il l'a fait. Et la suite est donc logique. Le docteur Dominique Combes est convoqué par le juge d'instruction.
Bien, monsieur, je vous informe que j'ai décidé de vous mettre en examen pour homicide involontaire contre la personne de Pascal Vito.
Et quand il l'interroge quelques jours plus tard, voilà comment le docteur s'explique.
Bah, ce jour-là, le 27 février, j'étais au labo, et vers midi, Pascal Vito est venu me trouver. Il m'a demandé d'aller avec lui dans l'appartement qu'il occupait au laboratoire. Et là, il m'a dit qu'il souffrait, quoi. qu'il était très mal. Et puis il s'est mis à se griffer le corps, ostensiblement. Et vous devez savoir que chez nous, c'est un signe qui veut dire au secours, quoi.
Chez nous ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, monsieur ?
Ben, chez les francs-maçons, quoi. On était tous les deux francs-maçons dans la même loge. Et là, il m'a tendu donc une ampoule d'équanine. Et il m'a demandé de lui injecter l'ampoule, quoi. Je lui ai dit que j'avais pas la bonne seringue pour une intramusculaire, parce que, bon, l'équanine, ça s'injecte en intramusculaire, en général. J'ai voulu aller chercher une autre seringue, il m'a dit « C'est pas grave, fais-la-moi en intraveineuse. » Et donc, ben, j'ai sorti la seringue, quoi. Je lui ai fait un garrot. J'ai fait ce qu'il me demandait, quoi.
Mais vous saviez qu'en intraveineuse, ça pouvait le tuer, n'est-ce pas ?
Ben, non, je me souviens que pendant mes études à l'hôpital Cochin à Paris, ça nous est arrivé de faire des injections d'équanine en intraveineuse. Des petites doses, bien sûr.
Oui, mais sauf que là, docteur, il ne s'agit pas de petites doses.
Hein. Ah si ? Si, moi, je lui ai injecté une dose infinitésimale, quoi. Même pas un cinquième de l'ampoule. Tellement petite d'ailleurs qu'on n'était pas loin de l'effet placebo.
Vous noterez que ça ne colle pas du tout avec le rapport de l'expert toxicologue. Du tout. Et là, apparaît un problème d'horaire. Le légiste dit dans son rapport que Vito est mort à 23 heures. Or, le docteur Combe dit qu'il a pratiqué son injection vers midi. Alors, soit le légiste s'est trompé, soit le docteur Combe ment. Et d'après le témoignage de l'ex-femme de Vito, Evelyne, il ment.
Moi, je suis allé voir Pascal dans son appartement aux alentours de 19h30. Il était vivant. Et j'y suis resté jusqu'à 9h du soir. Et quand je suis parti, je l'ai laissé avec le docteur Combe. Il est resté seul avec lui, j'en suis certaine.
Vous n'êtes pas juge d'instruction et moi non plus, n'est-ce pas ? Mais enfin, il n'y a pas besoin d'avoir fait 5 ou 6 années d'études de droit pour conclure de tout ça qu'il y a un gros problème. Que l'hypothèse que le docteur Combe ait tué son associé en lui injectant une dose létale d'équanile est sérieuse.
Eh ben non. Le juge d'instruction retient l'hypothèse d'un suicide et il prend une ordonnance de refus de plus ample informé, c'est-à-dire que le dossier est classé.
Imaginez la tête des enfants de Pascal Vito. Immédiatement, il conteste la décision du juge et il rencontre une oreille attentive, celle du procureur, qui lui aussi a de gros doutes sur le docteur Combe. Résultat, début 1998, l'enquête redémarre. Ouf ! Et elle va s'intéresser à une question négligée jusqu'ici. Le mobile. Quel serait l'intérêt du docteur Combe de faire disparaître son associé Pascal Vito ? Et là, il faut que je vous dise quelque chose que je ne vous ai pas encore dit. Pascal Vito était à la tête de ce gros laboratoire d'analyse médicale, le laboratoire du Pont-Neuf. C'est lui qui l'a créé. Une belle affaire. Mais officiellement, ça n'était pas lui le patron, pour une raison très simple. Il n'était pas du tout docteur. Il n'était pas médecin. C'était un homme d'affaires. Or, la loi française est très claire. Un laboratoire biologique ne peut être dirigé que par un médecin. Et c'est là qu'apparaît le docteur Combe, biologiste de bonne réputation, mais effacé, pas assez d'ambition pour créer son propre labo. C'est Evelyne, la femme de Vito à l'époque, qui lui a présenté le docteur Combe. Et c'est elle aussi d'ailleurs qui, pour obtenir les crédits des banques pour racheter le labo, a mis en gage sa maison. En contrepartie, elle détient un quart des parts du laboratoire. Et le reste ? Eh bien, le reste, la loi française là aussi est très claire, le reste doit obligatoirement appartenir au médecin qui le dirige. Et donc, au docteur Combe. Qui, dans la tête de Pascal Vito, n'est qu'un prête-nom. Que les choses soient bien claires, le patron, c'est lui. Et d'ailleurs, ils ont un accord secret. Un pacte. Un tiers des parts chacun. Mais ça, fiscalement, ça ne peut pas apparaître.
Ce qui fait qu'à la fin de l'année, quand vient le temps de la distribution des bénéfices, le docteur Combe prend 3/4 du gâteau et Evelyne 1/4. Et Pascal Vito alors? Comment est-ce qu'il vit? D'où sort-il son argent? Et il en a un? Eh bien, il tape dans la caisse. Tous les soirs, il ramasse le liquide tranquillou. Ben, dans sa tête, c'est normal. C'est lui le boss. Et d'ailleurs, les policiers qui mènent l'enquête sur son possible meurtre s'aperçoivent que ce n'est pas la première fois que Vito tape dans la caisse. Et là, je vais réveiller de vieux souvenirs que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Jacques Médecin, ça vous dit quelque chose? Député maire de Nice de 1966 à 1990. 3 fois ministre, le tonton flingueur de la Côte d'Azur, ami avec les puissants de Paris et avec les marlous de la région niçoise. Sulfureux, très sulfureux. Et un jour, Médecin dit à Vito «
Bon, dis-moi, Pascal, je voudrais que tu te mettes au service du maire de Draguignan. Il a besoin d'un coup de main. Je te fais confiance, hein ?»
Et Vito crée une association paramunicipale. Et déjà, il tape dans la caisse. Il détourne une patate, 1 million. Mais il se fait pincer. Et il file en prison pour 54 jours. Et c'est quand il sort, en 1986, qu'il rachète le laboratoire. Voilà toute la tambouille qui entoure cette affaire. Alors au début, au laboratoire, tout va bien. Et puis en 1994, le vent tourne. Evelyne demande le divorce. Et c'est à ce moment-là que Vito s'installe dans sa garçonnière au labo. Et là, d'un coup, il perd de sa superbe. Il plonge dans la dépression.
Il répétait tout le temps cette phrase. Il disait « Il faut que j'aille rejoindre mon père ».
Il voulait mourir. Et puis arrive le jour où il annonce à ses associés
« Je veux vendre mes parts. J'ai d'autres projets. »
Ses parts? Mais quelles parts? Officiellement, il n'a pas de parts. Mais dans sa tête, oui, il a 1/3 des parts. Ils ont noué un pacte, non? Le docteur Combe s'insurge.
« Mais non, t'es gonflé, Pascal. Avec tout ce que t'as tapé dans la caisse, avec le train de vie que t'as eu, depuis des années, sur notre dos, à Evelyne et à moi, t'auras rien, Pascal. T'auras rien. »
C'est pas si simple. Pascal Vito est tout sauf un naïf. Au titre de leur pacte, là, 1/3, 1/3, 1/3. Il leur a fait signer à tous les deux, Evelyne et le docteur Combe, des reconnaissances de dette.
Je te préviens, Dominique. Si tu me fais chier, si tu ne paies pas mes parts du labo, je sors les papelards. Les papelards qu'on a signés.
Le voilà, le mobile possible. Le pognon, le flouze, la maille. Je vous l'ai toujours dit, ça. Quand c'est pas le cul, c'est la thune. À ce moment-là, l'enquête bénéficie d'un coup de pouce. La dernière maîtresse de Pascal Vito, Christine, a vu le docteur Combe quelques semaines après la mort de Vito. Et elle a enregistré leur conversation.
Il réclamait 180 000 francs. La société, il l'a coulé. Si ça avait continué comme ça 2-3 mois de plus, il l'a coulé.
Confirmation que le sujet qui opposait les deux hommes est bien le rachat des parts fantômes de Vito. Autre chose. Plusieurs témoins rapportent qu'Evelyne, l'ex-femme de Vito, a découvert le corps aux alentours de 10 heures. Mais elle n'a appelé les flics qu'à midi. Et qu'a-t-elle fait pendant tout ce temps? Elle a fouillé la garçonnière. Et que cherchait-elle? Les reconnaissances de dette? Et si oui, pour son compte ou pour celui du docteur Combe? Quel est le rôle exact d'Evelyne dans cette affaire? Bon ben, voilà quoi. L'enquête est terminée. Et l'hypothèse est assez lourde que le docteur Combe a tué Pascal Vito. Non? Ben si, vous êtes d'accord avec moi. Et pourtant, le juge d'instruction conclut à une erreur médicale. Une simple erreur de dosage. Et il décide de renvoyer le docteur Combe non pas devant la cour d'assises, mais devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire. Décidément, on a l'impression dans cette affaire que la justice ne veut pas aller au bout. Et pourquoi ? Là, on en est réduit aux hypothèses, mais il y en a une qui fait son chemin dans la tête de beaucoup. La franc-maçonnerie, les réseaux maçonniques, car le docteur Combe est franc-maçon, comme Pascal Vito l'était d'ailleurs. Et il se dit qu'au tribunal de Nice, à cette époque, les francs-maçons sont comme chez eux. Et donc, en octobre 2002, Dominique Combe comparaît devant le tribunal correctionnel de Nice pour homicide involontaire. Il encourt 3 ans de prison maximum. Sauf qu'à la fin, le tribunal lui-même conclut que les faits sont criminels et que dès lors, il est incompétent à les juger. Le bon sens est de retour. Et donc, 7 ans après la mort de Pascal Vito, un nouveau juge d'instruction est désigné. Et l'enquête est confiée aux gendarmes, qui placent immédiatement le docteur Combe et Evelyne sur écoute. Mais rien ne bouge. Alors un jour, les gendarmes débarquent au labo sous le prétexte de faire des photos de la garçonnière et quand ils arrivent, ils tombent sur Evelyne, charmante. Ce jour-là, les gendarmes ont une idée derrière la tête. Trouver les fameuses reconnaissances de dette. On leur a dit que peut-être elles étaient dans le faux plafond. Alors ils retournent le faux plafond et ils ne trouvent rien. Mais Evelyne a vu qu'ils cherchaient. Et c'était ça aussi le but des gendarmes, la faire réagir, la faire bouger, parce que n'oubliez pas qu'elle est sur écoute. Et ça marche. Quelques jours plus tard, elle appelle un ami.
Mes papiers peuvent toujours les chercher. Hein. Je les ai planqués chez ma sœur, à Berre-les-Alpes.
C'est du lourd, ça. Et dans la foulée, les gendarmes passent à l'action. Ils interpellent Evelyne et avec elle, 17 personnes de son entourage. Et c'est très payant. Parce qu'on leur donne les fameux papelards, la preuve de l'accord secret entre Combe, Vito et Evelyne. Et ça, en garde à vue, Evelyne l'assume totalement. Mais ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la mort de Pascal Vito.
Moi, je pense que Pascal a demandé au docteur Dominique de le suicider. Et je pense que Dominique a accédé à sa demande, c'est tout.
Elle n'avait encore jamais dit ça. C'est la première fois qu'elle met en cause le docteur Combe. Et pour l'instruction, ça change tout. Le docteur Combe n'a donc pas fait une erreur de dosage. Il l'a tué à la demande de Vito peut-être, mais il l'a tué. Et là, il est bon pour la cour d'assises. Dans la foulée, le juge d'instruction ordonne l'exhumation du corps de Pascal Vito. Ça, je vous le dis tout de suite, c'est assez crado, parce que le corps est là depuis 9 ans, il est très très abîmé. Et d'ailleurs, c'est tellement crado que beaucoup d'experts se défilent. Mais un expert parisien accepte de chercher dans ce qu'il reste des traces d'équanil, c'est-à-dire dans le foie, et surtout dans les cheveux. Car les cheveux, vous devez le savoir, gardent la mémoire de toutes les substances que le mort a consommées. Et il conclut que Pascal Vito a reçu en injection non pas une, mais 2 ampoules d'équanil. Et comme les cheveux ont la mémoire de tout, il établit que l'injection a eu lieu à 18h30. Et ça confirme que le docteur Combe est bon pour la cour d'assises. Quoi qu'en pensent ses copains francs-maçons. Le procès devant les assises s'ouvre le 29 juin 2009. Le docteur Combe est jugé seul. Le juge a décidé finalement d'épargner Evelyne. Et ce procès a l'honneur d'avoir pour avocat général le procureur de la République de Nice en personne, Éric de Montgolfier, qui n'est pas là par hasard. Hein. Dans ce dossier, il a un compte personnel à régler, car il a engagé un combat contre les réseaux francs-maçons dans la justice niçoise. Et ça n'est pas un fantasme de sa part. Hein. Je vous raconterai un jour l'affaire Agnès Leroux, à Nice justement, ou comment le suspect Jean-Maurice Agnelet a été protégé par les réseaux maçonniques. Bref,
Éric de Montgolfier a trouvé dans ce dossier une belle occasion de ronger son os favori. Et c'est parti. Dès le début, Dominique commet à la peine. Et le coup de grâce est porté par l'expert toxicologue qui a identifié l'équanil dans le corps de Pascal Vito.
Vous savez, il est extrêmement difficile d'injecter de l'équanil. Surtout avec les seringues que le docteur Cohn dit avoir utilisées. Il faut beaucoup de force, beaucoup d'insistance, beaucoup de persévérance. Je dirais que ça prend au moins 10 minutes. Autrement dit, à mon sens, ça marque la volonté de tuer.
Ouh, c'est pas bon ça, c'est pas bon du tout. Mais, vous le savez, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bœufs. L'expert parisien qui a bien voulu examiner le cadavre putréfié de Pascal Vito vient alors à la barre. Je vous rappelle que c'est lui qui a affirmé qu'on avait injecté à Vito 2 ampoules d'équanil. Eh ben finalement, il n'en est plus tout à fait certain. Il a un doute.
Ah les experts!
Et là, basculement, on commence à se dire que peut-être le docteur Com lui a injecté, comme il le dit, une faible dose d'équanil pour le calmer. Et qu'après son départ, Pascal Vito, qui était au fond du trou, s'est peut-être envoyé une plaquette entière d'équanil en comprimé, ce qui expliquerait le dosage retrouvé dans le corps. Ça n'est pas certain, mais ça n'est pas impossible. Et là, vous allez me dire, mais non, puisqu'on n'a pas retrouvé de plaquette vide près du corps.
Sauf qu'un témoin, un ami d'Evelyne, son confident, vient dire à la barre qu'Evelyne elle-même à jeter les plaquettes à la poubelle pour faire croire à un suicide.
La suite est logique. Et même l'avocat général Montgolfier, qui était venu là pour régler des comptes, est obligé de le reconnaître.
Il y a, vous le savez, une règle dans la justice. C'est que le doute doit toujours profiter à l'accusé. Et dans ce dossier, reconnaissons que nous avons un doute.
J'adore les avocats généraux qui ont les couilles de dire ça. Ils sont très rares. Et pourtant, Montgolfier n'a fait que son devoir. Et du coup, ben, l'issue est logique elle aussi. Dominique Combes est acquitté.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.